Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou Dmouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue. Focus aujourd'hui sur les pourparlers d'Alger dont la reprise est annoncée pour demain. Émission spéciale numéro 2, l'urgence est de trouver un préaccord vu la détérioration de la situation sur le terrain. Le nord du Mali connaît depuis plusieurs semaines un regain de violence. Il faut se donner les moyens et le temps de construire les fondements d'une paix durable. Ce débat comporte trois volets, justice et réconciliation, défense et sécurité et le développement économique et culturel. Moi, je suis Sida Batili, je suis avec Moussa Camara pour la co-animation. Moussa, bonsoir.
Bonsoir, Sida.
Alors, avec vous donc, la présentation des invités.
Pour le numéro du jour, nos invités sont Mohamed Ousmane Al-Mohamedoun, des mouvements de la coordination. Il sera au téléphone depuis Ouagadougou. Ensuite, on aura Sbeti Ag Akado, des mouvements de la plateforme. Et enfin, Ibrahima Assianga Maïga du ministère de la Réconciliation Nationale. Voilà, sera pour les invités.
Voilà, merci Moussa. Vous avez gagné Kanté à la technique. Nous avons recueilli les préoccupations des citoyens. Vous entendrez également les correspondants de Studio Tamani et l'avis des internautes et d'autres citoyens sur les différents axes. Bienvenue à vous, chers invités. La première partie de cette émission est consacrée à la justice et à la réconciliation. Et sans plus tarder, nous allons partir directement avec cette question, Moussa Kamara.
Oui, c'est la réconciliation, certes, mais à quel prix se préoccupe notre correspondant de Gao que nous écoutons.
Kader Touré, Radio Anya, correspondant Studio Tamani Gao. La réconciliation est-elle possible au regard des événements au nord et leur gravité?
Voilà la première question. Alors, Monsieur Sbeti Ag Akado de la plateforme.
Merci de m'avoir donné la parole. Pour aller directement à la réponse à cette question, évidemment qu'il est possible que les Maliens se réconcilient. Et surtout que les Maliens comprennent de plus en plus que cette terminologie de conflit, de crise, de réconciliation nous ont été imposées en quelque sorte. Dans la réalité, il n'y a pas de problème entre les Maliens. Et il suffira tout simplement que chacun prenne ses responsabilités, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des groupes qui se disent rebelles, qu'il s'agisse de la communauté internationale. Si chacun replaçait le problème dans son contexte, il n'y a pas de raison que les Maliens ne se réconcilient pas le plus tôt possible.
Alors, Ibrahim Assianga Maïga, vous êtes du ministère de la Réconciliation Nationale. Je vais vous poser la même question, la préoccupation de notre correspondant depuis Gao. Est-ce qu'il est possible que les Maliens se réconcilient aujourd'hui?
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Et pour répondre à la question, je pense qu'il n'y a pas de problème que les Maliens ne se réconcilient pas. L'essentiel, c'est que tout simplement que nous puissions chacun se dire la vérité. Et qu'au niveau de cette vérité-là, qu'on se dise « j'ai tort » et qu'on accepte qu'on a tort. Que j'ai raison, qu'on accepte que j'ai raison. Et au vu de ça, que chacun aille la main dans la main, nous allons nous retrouver et nous allons être réconciliés comme si deux frères de la même famille, qu'il peut y avoir des petits problèmes à un moment donné entre deux frères, mais l'essentiel c'est la famille. La famille, chacun n'a pas choisi d'être dans sa famille, donc on n'a pas choisi d'être malien. Nous sommes tous des Maliens, on n'a pas choisi de dire celui-là, il faut que un tel soit malien et que l'autre ne soit pas malien, non. Mais comme quelqu'un le disait, on est malien avant d'être Touareg, on est malien avant d'être Peul, on est malien avant d'être Sarakoulé ou Sénoufou, on est malien avant d'être Soreg. Donc, nous sommes des Maliens et nous sommes condamnés à vivre ensemble, donc à se réconcilier et se donner la main pour développer ce pays.
Alors, Mohamed Ousmane Al-Mohamedoun de la coordination en ligne depuis Ouagadougou. Bonsoir, monsieur Al-Mohamedoun.
Bonsoir, madame.
Alors, votre avis sur cette question de réconciliation, est-ce que selon vous, il est possible que les Maliens se réconcilient aujourd'hui?
Moi, je pense que d'abord, je profite pour remercier votre studio pour ce travail et l'occasion offerte pour nous exprimer à ce niveau. Donc, pour revenir à la question, je pense que La réconciliation est une obligation et c'est même un devoir religieux. Quoi qu'il arrive, les gens sont obligés de se réconcilier, c'est un devoir religieux. Autrement, celui qui ne fait pas des efforts vers une réconciliation commet un grave péché. Donc pour moi, elle est possible. Maintenant, le premier intervenant a dit quelque chose d'intéressant. Si chacun situait les problèmes dans son contexte réel, qu'il les voit dans sa réalité, je pense que une réconciliation serait au rendez-vous le plus tôt possible.
D'accord. Alors, une autre préoccupation, elle est relative à la justice. Qui dit réconciliation dit justice et vice-versa. Moussa Camara, nous allons donc partir pour une autre question.
Tout à fait. Cette question, elle nous vient de Koulikoro Sira. Et notre correspondant se demande si la justice malienne sera à la hauteur de sa mission face à la situation au nord. Nous suivons.
Jumana Naïté, correspondant de studio Tamani à Koulikoro. Ma question est la suivante. Le Mali a-t-il les moyens nécessaires pour rendre justice à toutes les victimes d'exactions commises pendant la crise?
Alors, Ibrahima Asianga Maïga, vous qui êtes du ministère de la Réconciliation, votre réponse à cette question?
Oui, le Mali a tous les moyens pour les moyens. Et nous avons mis tout un arsenal juridique, et réglementaire et institutionnel pour cela. Et il y a, nous avons voté, du moins je dis, le Parlement a voté une loi concernant la Commission Vérité, Justice, Réconciliation. Il y a des textes d'application qui font que la méthode, nous allons comme un peu à la malienne, comme ça a été fait au niveau du Rwanda. C'est-à-dire qu'on va créer des commissions de vérité et justice au niveau des régions, au niveau des cercles, au niveau de toute la localité, avec des personnes qui ont quand même une certaine audience, une certaine respectabilité au niveau de ces localités, donc qui vont asseoir tous les gens, chez qui d'abord les gens vont déposer leurs plaintes, et qui vont, en tout cas, ces plaintes seront analysées à leur niveau. Ce qui devrait venir au niveau de la justice dite moderne viendra au niveau de la justice dite moderne, mais tout ce qui peut être traité, tranché au niveau des localités le sera, et je pense que nous avons en tout cas des notables, des autorités traditionnelles, coutumières, religieuses pour ce faire, et même des personnes quand même qui tout simplement par leur respectabilité en tout cas font la confiance des populations, et nous allons mettre tout cet arsenal en jeu.
Alors, Sbeti Ag Akado de la plateforme, notre correspondant de Koulikoro, vous l'avez entendu, il veut être rassuré par rapport aux moyens pour rendre justice suite aux exactions commises.
Je comprends bien son inquiétude et sa question. Quand on sait que notre justice, quand même, est l'un des maillons faibles de la République, les citoyens se sont plaints de tout temps, n'est-ce pas, des décisions de justice dans ce pays-là. Et malheureusement, ça continue. Au moment où les gens sont en train de chercher des réconciliations, il y a des dérives par rapport à la justice. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ça n'inspire pas confiance. Donc, pour revenir à la question, moi je pense que dans tous les cas, je dis tout simplement qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce que les questions de justice sont des questions qui mettent ensemble un certain nombre de compétences, les compétences des populations, d'une manière générale. Et ça a toujours été mis de côté. Et tant qu'on ne reviendra pas à la nécessité de mettre les Maliens ensemble, n'est-ce pas ? Peut-être ce serait trop osé de penser qu'on peut revenir aux situations du passé, c'est-à-dire à la justice traditionnelle, pour ne pas dire transitionnelle. Mais il faut se résoudre que ce pays-là est un pays d'une vieille civilisation et que nos valeurs sont là, il va falloir en profiter. Et que tant qu'on ne mettra pas au centre de la justice les préoccupations des populations, que les populations s'asseyent, s'écoutent, ceux qui peuvent pardonner vont pardonner, ceux qui peuvent accepter les torts les acceptent, etc. etc. Donc il faut ramener la justice à la société. Et parallèlement à ça, évidemment, il faut que la justice dite des Toubabs, en tout cas, se redresse un peu mieux, qu'elle sache, qu'elle comprenne que les populations ne peuvent pas se retrouver toujours dans le carcan des papiers et qu'il y a des questions que seuls les populations peuvent trancher. Pour l'international, je termine par là, il faut aussi que l'international diminue son ingérence par rapport à toutes nos décisions politiques, n'est-ce pas, à toutes nos décisions de justice. Ça, je le dis parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'interférences dans nos affaires.
D'accord. Mohamed Ousmane Al-Mouamouidoun de la coordination depuis Ouagadougou, est-ce qu'il est possible de rendre justice au Mali et avec quels moyens?
Merci madame. Pour revenir à la question, je complète la présentation. Donc c'est effectivement Mohamed Ousmane Al-Mouamouidoun, chargé des relations extérieures et pour parler inclusif au sein de la coalition du peuple de l'Azawad. Et je parle au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad.
D'accord. De la CPA.
Pour revenir à la question, voilà, la CPA. Pour revenir à la question, je voudrais dire tout simplement, contrairement à ce qu'il dit le premier intervenant par rapport à la question, je ne pense pas que le Mali ait tous les moyens aujourd'hui de faire cette justice, même si il y a des moyens, des outils disponibles. Je pense que le Mali, on revient très loin. On revient de très loin et de ce point de vue, le Mali doit se doter sincèrement des moyens et des outils nécessaires pour rendre la distribution de cette justice beaucoup plus équitable et beaucoup plus visible et beaucoup plus concrète du point de vue impact sur les populations. Et c'est seulement à cela que je pense qu'on va être vraiment sur les caps, en bonne posture de rendre justice. Et quand il s'agit de rendre justice, c'est un des éléments clés de cette réconciliation dont on parle. Aujourd'hui, on ne peut pas bâtir une réconciliation en restant tous les jours dans l'impunité. C'est vrai, dans la réconciliation, il faut se dire pardon pour certaines choses. Il faut excuser des choses, il faut pardonner des choses. Mais au-delà du pardon, il faut voir vraiment quelles sont les réparations nécessaires et utiles qu'il faut faire de part et d'autre pour que vraiment la sérénité revienne, pour que vraiment l'assurance revienne au niveau des populations. Et cela ne saurait être possible que quand le peuple dans sa globalité, notamment le peuple, je parle du peuple aujourd'hui, je remets le pays dans son contexte de conflit, et qui sont en conflit, les parties en conflit aujourd'hui, doivent s'entendre sur l'ensemble des outils et les instruments juridiques institutionnels à mettre en place pour permettre que cette justice soit désormais faisable, soit désormais possible, qu'elle récupère toute sa crédibilité, qu'elle récupère toute sa neutralité, comme on l'a dit, toute son indépendance. Et là, c'est très important parce que normalement, les juges, dans la réalité, ne doivent obéir qu'à la seule autorité de la loi.
D'accord.
Donc, il faut permettre aujourd'hui aux acteurs de mettre en place les outils et les instruments nécessaires. C'est simplement que je dirais que le Mali s'est doté de tous les moyens de faire vraiment justice.
D'accord. Il y a cette préoccupation d'un internaute. Je vais la poser donc à M. Sbeti Agakado. Il se demande qu'adviendra-t-il des victimes psychologiques et physiques des groupes armés dans le Nord?
Évidemment, c'est une question extrêmement difficile à satisfaire parce que tout simplement, les victimes des groupes armés, nous sommes habitués dans ce pays-là à ce que ces victimes-là soient laissées à côté de la plaque et le processus tel que nous le voyons n'augure pas vraiment de... n'augure pas de bon lendemain pour ces victimes-là. Sauf que cette fois-ci, on espère que dans la mesure où l'international, dans sa globalité, s'agite autour de notre crise, ils vont réellement veiller scrupuleusement c'est-à-dire à la prise en compte de ces victimes-là. Nous sommes en train, dans tous les cas, de recenser un certain nombre de choses. Et je vois que le processus, la lenteur qu'il est en train d'accuser est en train d'éliminer petit à petit tout ce qu'on appelle preuve, tout ce qu'on pourrait en tout cas réunir comme argument contre ces agresseurs qui ont fait tant de mal aux populations. Mais quand même, nous veillerons et je pense que la société malienne, d'une manière générale, cette fois-ci, ne se laissera pas abuser.
D'accord, on va observer quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vos réactions sont sollicitées sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. C'est le grand dialogue spécial pour parler d'Alger avec trois thèmes. Justice et réconciliation, défense et sécurité, développement économique et culturel. Nous en parlons avec Sbeti Ag Akado de la plateforme, Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation et Mohamed Ousmane Al-Mohamedoun de la CPA, Coalition du Peuple pour l'Azawad, qui intervient depuis Ouagadougou. Alors, le deuxième volet est consacré aux questions de défense et de sécurité. Mais avant, je crois que M. Asianga Maïga voulait réagir par rapport aux victimes psychologiques et physiques.
Oui, je voudrais, merci beaucoup, je voudrais réagir justement sur ça, et ainsi que sur l'intervention de M. Ould aussi. Parce qu'il faut comprendre que cette fois-ci, cette crise que nous vivons n'est pas comparable dans tous les sens aux crises vécues avant, celle de 63, celle de 90, celle de 2006. Cette fois-ci, il faut reconnaître que le gouvernement a subi en même temps que les populations. Ensuite, l'autre aspect, c'est que cette fois-ci, la société civile s'est fortement impliquée. Donc, ce n'est pas seulement des pourparlers qui se font entre le gouvernement et les groupes armés, mais cette fois-ci, la population a son mot à dire. Et je pense que tout récemment, on a vu les associations des droits de l'homme qui ont porté plainte en faveur des femmes qui ont été victimes de viol. Ça continue. Donc on n'empêche à personne de faire en tout cas le travail qu'il doit faire pour pouvoir le faire. D'accord. Et cette fois-ci, la commission Vérité, Justice et Réconciliation qu'on a créée va prendre les dossiers de 1960 jusqu'en 2014.
D'accord.
Jusqu'en 2014. Donc ce qu'il dit, toute personne qui se sent victime quelque part a le droit de poser plainte. Et on verra, et le dossier sera étudié conformément à la loi.
Alors, M. Mohamed Ousmane Al-Mohamedoun de la CPA, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela?
Juste que je confirme ce que mon frère vient de dire, c'est que la justice, effectivement, il faut la faire depuis le départ, il faut refaire des réparations depuis 1960. Et là-dessus, la position du mouvement de la coordination de l'Azawad est très claire. Il faut mettre en place une commission d'enquête indépendante qui va appuyer les travaux de la commission en vérité, dialogue et réconciliation, pour vraiment élucider tous ces aspects, tout ce qui est arrivé comme situation d'injustice depuis 60 à maintenant. Ça, on est tout à fait d'accord, je confirme, je crois que c'est important, il faut le faire. Il faut y aller si on veut avancer.
D'accord. Alors, le deuxième volet est consacré aux questions de défense et de sécurité. Moussa Camara, nous avons promené notre micro.
Oui, les citoyens s'inquiètent, Sira Bachili, de la sécurité des personnes et de leurs biens. On écoute à ces propos une citoyenne.
Moi, c'est Concept Anneli. Ma question est de savoir, est-ce que la sécurité des personnes et des biens peut-elle être garantie au Nord?
Alors, M. Ibrahim Asianga Maïga.
Bon, comme je viens de le dire, l'État est là pour défendre tous les citoyens. Et la défense des citoyens se fait par des réseaux bien donnés. Souvent, on confond l'action des militaires par rapport à l'action des forces de sécurité, telles que la gendarmerie et la police. Souvent, nous, on les appelle communément les galons dorés et les galons blancs, qui n'ont pas les mêmes missions. Mais aussi, la population, pour sa sécurité, la population doit beaucoup s'impliquer par le système de renseignement, par le système de communication vraie à donner au niveau des autorités, de manière à ce que c'est ce qui pourrait faire en sorte que l'État peut enclencher en tout cas des actions pour pouvoir défendre de façon sérieuse la population sur le terrain.
D'accord.
Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas souvent. Et même quand on décèle, quelque part qu'on a fait des exactions, quand on voit même les populations les plus proches se retiennent de parler.
D'accord. Alors, M. Sbeti, vous m'excusez, Akado, par rapport à cette question de sécurité des personnes et des biens au Nord, qu'en est-il exactement?
C'est une question extrêmement délicate, dans la mesure où on a de la peine à redéployer nos services, les services de la nation sur l'étendue du territoire. Et apparemment, à travers ce que nous voyons dans les documents qui sont en train de circuler, il y a quand même une certaine lenteur. C'est vrai, on ne peut pas se précipiter par rapport à cette question-là, mais nous avons pensé depuis longtemps que la communauté internationale qui est venue avait bien les moyens de mettre fin à un certain nombre de mouvements d'insécurité dans la région. Mais on ne peut pas être optimiste quand nos frères qui se disent maliens continuent, n'est-ce pas, de faire des braquages, de faire des assassinats, ils nous font même oublier les bombes et les roquettes, n'est-ce pas, des terroristes. Quand eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de torpiller le processus, on se pose la question de savoir, est-ce que nous avons affaire à des vrais gens qui cherchent la paix, ou bien on a affaire à des gens qui veulent perpétuer, n'est-ce pas, des actes de banditisme, des actes de je ne sais pas moi, en tout cas des actes innominables.
D'accord.
Et ça ne facilite pas la tâche.
Bien sûr. Monsieur Mohamed Ousmane de la CPA depuis Ouagadougou, peut-on parler de sécurité des personnes et des biens au nord du Mali aujourd'hui?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut écouter carrément l'expression de la population, l'expression des mouvements aujourd'hui qui sont en conflit avec le gouvernement du Mali. On dit aujourd'hui, la sécurité passe forcément par l'implication de ces populations. Qu'est-ce que ça veut dire? On est d'accord que l'armée, aujourd'hui, dans le contexte où il y a des principes que la coordination des mouvements doit accepter, notamment l'intégrité du territoire. Donc, ça veut dire que l'armée, elle est nationale, c'est un pouvoir régalien de l'État. Mais ce qui est demandé, c'est qu'elle soit totalement réformée, que sa refondation soit un élément essentiel et que ces populations, aujourd'hui, qu'elles soient le maximum possible présentes dans cette armée de défense. Défense nationale, que ces populations soient maximum présentes. Ça, c'est la défense de l'armée. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité, vraiment, il faut la confier carrément aux populations. Il faut carrément confier aux enfants du terroir. Il faut recruter parmi les enfants du terroir pour assurer la sécurité. Mm-hmm. Il est important que ça soit comme ça, sinon, ça va être difficile. Ça va nous échapper. Là, ici, la coordination des mouvements de la Zawa est claire qu'il faut, à ce niveau, vraiment autoriser les populations par rapport à l'outil de défense et l'outil de la sécurité. Il est très, très important.
D'accord. Sur ce, nous allons partir sur le deuxième sous-thème. Monsieur Maïga, vous allez m'excuser, on est pris par le temps. Deuxième sous-thème de ce deuxième volet, la question de défense avec cette préoccupation. Moussa Camara.
Oui, là-dessus, un citoyen voudra bien en savoir sur les patrouilles mixtes.
Moi, c'est Alpha Mamadou Cissé. Peut-on organiser des patrouilles mixtes?
Alors, Ibrahim Assianga Maïga, vous qui êtes du ministère de la Réconciliation, cette question s'adresse à vous directement.
Bien, merci. Mais je voudrais tout simplement dire que notre correspondant depuis Ouaga doit comprendre que les textes que nous avons aujourd'hui ne nous interdisent pas de mettre en place ce qu'on appelle la police communale, les polices territoriales. Mais on n'a pas les moyens. Les moyens manquent aujourd'hui pour un maire de faire sa propre, de recruter et de faire sa police. Sinon, s'il y en a, nos textes de la décentralisation le prévoient très bien. Donc, c'est là où, justement, on peut mettre une police issue des enfants du terroir. Mais l'armée, la police nationale, la gendarmerie nationale, ça, c'est pour tout le monde. Et quand c'est pour l'État, on est fils du Mali, on peut servir partout. Mais dire que il faut que ce soit des enfants du terroir seulement qui doivent assurer la sécurité au niveau d'une localité donnée, si le maire a les moyens de le faire, l'État ne l'empêche pas de le faire.
D'accord. Par rapport aux patrouilles mixtes maintenant.
Par rapport aux patrouilles mixtes, il faut que les gens puissent se donner et la confiance les uns vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, on attend, nous espérons très bien qu'après la signature des accords d'Alger, il y aura des patrouilles mixtes. Nous l'espérons bien. Tous ceux qui vont, en tout cas, signer l'accord d'Alger...
C'est déjà prévu?
C'est prévu. C'est-à-dire que, normalement, dans nos idées, c'est prévu. Mais comme pour le moment, l'accord n'est pas signé, on ne peut rien dire. Mm-hmm. Mais c'est notre souhait. En ce moment, nous sommes tous des enfants du territoire, nous avons confiance les uns les autres, nous avons signé un engagement ensemble, donc rien ne nous empêche d'aller ensemble pour sécuriser notre territoire.
D'accord, Mohamed Ousmane.
Ceux qui ne seront pas là-bas, là-dedans, qui, ça,
nous considérons. On va faire réagir les autres, si vous le permettez, Monsieur Maïga. Alors, Mohamed Ousmane de la CPA depuis Ouaga, est-il possible d'initier des patrouilles aujourd'hui au nord?
Tout d'abord, je pense que le débat des moyens, on ne va pas le faire ici. Ce qui est important, c'est qu'on est obligé de se doter des moyens pour nous sécuriser. Autrement, on ne peut plus parler de souveraineté, parce que le premier critère de notre souveraineté, c'est notre sécurité. Donc, on doit forcément se doter des moyens à ce niveau. Et la police municipale, telle qu'elle est définie, ça m'étonnerait qu'elle soit la solution à la sécurité, le point de vue, dimension, et taille et tout le reste. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut regarder avec beaucoup plus d'attention et pour qu'il soit vraiment, qu'il soit dans nos réalités. Pour les patrouilles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'accord de Ouagadougou, avec les arrangements sécuritaires, le mode opératoire du cantonnement signé à Marta Bamako, il était prévu les patrouilles. Parce que les patrouilles étaient un véritable outil de réponse à un problème de crise de confiance sur le terrain. Vous avez des populations qui considèrent que l'armée est de la terre. Il y a d'autres qui pensent que les mouvements sont de la terreur. La meilleure façon de ramener la confiance et de permettre la libre circulation des personnes et des biens, c'est de mettre ces deux structures militaires ensemble pour patrouiller, ça permet de ramener la confiance sous une coordination internationale. Maintenant, qui a bloqué, qui n'a pas la volonté des mouvements, elle a été constante d'aller vers des patrouilles mixtes. Et de l'autre côté, on ne voit aucun signal. Et c'est surtout à ce niveau qu'on critique la communauté internationale dans son implication de sécurisation.
Alors,
maintenant, pour la volonté du gouvernement du Mali à ça, je n'ai pas des éléments pour dire qu'ils n'ont ni la bonne volonté, ni la mauvaise volonté. En tout cas, pour les
D'accord.
moments, on est constant, on en a réclamé.
On va faire réagir M. Spedi Akado de la plateforme.
Moi, je pense que il faut arrêter de faire une fuite en avant. Cette histoire de mouvement, de patrouille mixte, de ceci, de cela, nous sommes d'abord des Maliens. Et si nous sommes des Maliens, nous sommes dans un état de droit. Et nulle part dans ce monde-là, aucun état de droit ne peut accepter que chaque mouvement qui surgit de par-ci, de par-là, n'est-ce pas, ait la prétention de se comporter en force légitime ou légale. Soit restons dans la légalité. Il y a une assistance internationale qui est venue au chevet du Mali. Si nous lui faisons confiance, en principe, elle doit être en mesure de patrouiller aux côtés des forces légitimes et de stabiliser la situation. Mais s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu le monopole des armes et qu'en conséquence, tout ce qui doit se faire sur le plan sécuritaire doit les intéresser, alors je dis à ces gens-là, et si de tous les côtés de ce pays-là, des mouvements surgissent, comment on va gérer la situation? Soyons raisonnables et revenons sur terre. Faisons confiance à la communauté internationale. Elle va nous encadrer dans le sens de nous faire repartir sur le bon pied. Et ça, c'est la logique dans laquelle tout bon Malien doit s'inscrire. Aucun Malien, aucun Malien, tous les Maliens, je dirais, ont subi d'une manière ou d'une autre les exactions soit de l'armée, soit de la justice, soit de l'administration. Nous le savons tous. Ce n'est pas pour autant que nous allons tous nous rebeller et dire attention, désormais on a confiance en personne. Tant que ce ne sera pas ça, on ne fera pas ça. Sortons de ce schéma-là et soyons encore une fois.
Alors moi, j'aimerais poser une question à Ibrahim Asiyanga Maïga à propos de ça. Est-ce que l'État compte sur la communauté internationale par rapport aux patrouilles mixtes?
Oui, c'est ce qui se fait actuellement. L'État compte beaucoup et la première mission, c'était de la MINUSMA qui est là. C'est une force d'interposition. Et la force d'interposition veut dire qu'eux, ils ne combattent pas. Mais s'il y a des combats, ils se mettent entre les gens pour pouvoir les séparer. Mais tout récemment, nous avons vu, le gouvernement a demandé que cette mission soit changée. Et que vraiment ça puisse, si en tout cas, ça ne peut pas en tout cas faire être une force d'intervention, il faudrait au moins que la MINUSMA fasse en sorte que vraiment que ces attaques qui se multiplient cessent.
D'accord. Sur ce, on va observer quelques secondes de pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le Grand Dialogue sur les pourparlers d'Alger, émission spéciale numéro 2 avec différents axes, réconciliation, sécurité et économie. Nos invités sont Ag Akado de la plateforme, Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation et Mohamed Ousmane Al-Mohamedoun de la CPA. Nous arrivons donc au troisième et dernier volet. Il s'agit du développement économique et culturel. Comment y parvenir? La question intéresse beaucoup de citoyens, apparemment, Moussa Camara.
Tout à fait, Sira Batili, c'est le cas de cette citoyenne qui veut savoir comment réaliser le développement devant la confusion actuelle. Nous l'écoutons.
Mon nom, c'est Mademoiselle Danyo Korokia et ma question est la suivante. Le développement économique est-il possible au Nord et dans quelles conditions?
Alors, Spedi Aga Akado de la plateforme, par rapport au développement économique, il est envisageable au Nord?
Évidemment, on peut pas rester dans la logique du chaos. Il est quand même souhaitable. Les populations du Mali dans leur ensemble sont fatiguées. Et je suis sûr que nos frères, n'est-ce pas, de l'autre côté, qui sont, je dirais, en tout cas, ne serait-ce que par rapport à 2012, qui sont à l'origine du chaos que nous vivons, je pense qu'il est temps quand même qu'ils comptent les années. Nous sommes déjà à 3 années, n'est-ce pas, de ce chaos-là. Et si réellement c'est le développement qu'ils veulent, ils doivent arrêter de monter les enchères et de se dire que la communauté internationale, encore une fois, est avec nous. Elle ne s'est jamais mobilisée autant auprès, en tout cas, de nous. Cette fois-ci, faisons-lui confiance. Et avec tout ce qu'on nous promet, il est possible, à mon avis, qu'on retrouve le développement. Mais, encore une fois, il faut que les uns et les autres s'engagent.
D'accord. Alors, M. Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation, quelles peuvent être les conditions d'un développement économique au nord du Mali aujourd'hui?
Merci beaucoup. Je crois que maintenant, je suis sur mon terrain.
N'est-ce pas?
Et je vais faire un petit rappel historique. En septembre 1994, après la rébellion de 90, la communauté internationale s'est mobilisée. Et lors de la table ronde des bailleurs de fonds du Mali tenue à Genève, ils ont demandé qu'il faut qu'on prenne le dossier du Nord comme un dossier, un secteur. Donc faire une table ronde sur le Nord. Parce que toutes les revendications des mouvements armés, chaque fois qu'il y a une rébellion, on dit que c'est parce que le gouvernement ne fait rien pour le Nord. Nous avons voulu faire la table ronde, on a dit non, attention. En faisant une table ronde, c'est comme si on doit chercher de l'argent. Nous avons fait une étude pour essayer de voir combien aujourd'hui, en son temps, en 94, il y avait de financement disponible pour le développement des trois régions du Nord. Nous avons trouvé qu'il y avait 200 millions de dollars. Convertissez vous-même. 200 millions de dollars qui étaient là pour le développement des régions du Nord. Nous avons essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Nous avons dit peut-être que c'est la façon de faire, un schéma institutionnel qu'il faut voir comment faire pour pouvoir mobiliser davantage ces projets. Mais chaque fois qu'on veut mobiliser ces projets, l'adage où on dit pas de développement sans paix, ça c'est vérifié.
Ouais.
On veut faire le développement. Et chaque fois qu'on amène les véhicules, chaque fois qu'on amène les financements, on les vole, on les attaque, on attaque par-ci, par-là. Il ne peut pas y avoir de développement. En 2006, nous avons fait la même chose, ce qu'on a appelé le forum de Kidal, où on a dit cette fois-ci, il faut aller sur les projets structurants, c'est-à-dire faire les routes, faire les terrains d'aviation, de manière à ce que vraiment il y ait de projets structurants qui puissent mobiliser et attirer le développement. Je me rappelle, la BAD à l'époque avait dit immédiatement, je suis prêt à financer la route Douanza-Tombouctou. Et l'Union européenne a dit, je suis prêt à financer tout de suite la route Nyono-Tombouctou. Mais on a vu le projet de construction du barrage de Taoussa qui a commencé. Aujourd'hui, où on en est? Chaque fois qu'on reprend, ce sont les mêmes attaques, on détruit tout et on veut aller jusqu'au nihilisme.
D'accord,
cela ne peut pas aller.
On va
donc,
faire
je crois que la condition pour pouvoir vraiment faire le développement, prenons l'exemple sur la région de Kaï, où tous les fils de Kaï se mettent ensemble pour développer leur région et non détruire. Je crois que nous, les enfants de la des régions du Nord, doivent aussi se donner la main. On reçoit un copec, il faudrait qu'ils arrivent à savoir comment gérer ce copec pour pouvoir développer les régions du Nord.
Alors, M. Mohamed Ousmane de la CPA depuis Ouaga, qu'est-ce qu'il faut pour le développement économique au nord du Mali?
Merci madame, c'est une question cruciale. D'abord, permettez-moi un petit résumé. Toutes les thématiques qu'on a touchées, la réconciliation, la sécurité et maintenant le développement, dans le contexte actuel malien, elles sont liées au règlement de la crise aujourd'hui au Mali, notamment des conflits qui opposent l'Azawad et le gouvernement du Mali. Il faut aller d'abord vers une solution et un accord. C'est seulement en ce moment qu'on peut rentrer dans une phase opérationnelle pour la faisabilité de tout ça. Maintenant, le développement, pour venir à la question du développement, on a demandé une refondation, une réforme générale du système de gouvernance malien et dans lequel on a dit qu'il faut définir clairement et de façon claire le statut de la région qui fait objet de conflits, notamment la région de l'Azawad, qui constitue les Tombouctou, des Kao et des Kidal. Il faut forcément et nécessairement définir le statut de cette région et lui définir une gouvernance qui lui soit adaptée conformément à ses spécificités. Donc toutes ces thématiques passent par là. Il faut aller ça, et je pense qu'à ce niveau, le premier interpellé, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui doit faire des concessions substantielles, des propositions substantielles pour nous sortir de là. Je vois un débat autour de la question des jours passés. Je comprends quand c'est l'opposition qui parle, parce que de toute façon, ce n'est pas elle qui est aux affaires. Si elle était aux affaires, elle aurait eu un autre discours. Mais pour le gouvernement qui est aux affaires, je pense que la question du développement, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il doit donner des dispositions substantielles, faire des concessions substantielles très prochainement à Alger pour nous amener vers un accord satisfaisant qui permette une redéfinition de notre gouvernance, une définition pour la savoir et son système de gouvernance. C'est seulement cela qu'on peut vraiment aller vers la concrétisation de notre rêve. D'accord. Le développement, notre rêve de sécurité et tout le reste.
D'accord.
La réconciliation et tout le reste.
Voilà. Et à propos d'ailleurs, on a une préoccupation d'un internaute, il s'appelle Koumé Diag. Il demande donc, la question va s'adresser sûrement à M. Maïga, le Mali a-t-il une volonté politique pour gérer les questions de l'Azawad au vu des différentes crises de 1963 à nos jours?
Le Mali a une volonté très forte, mais je dis d'abord, l'Azawad c'est quoi? L'Azawad, quand vous prenez le Tilemsi, dans le cercle de Goundam, le nord du Tilemsi qui s'appelle l'Azawad. Kidal, c'est l'Adra de Sfougas. Menaka, c'est l'Azawak. Ça, c'est si ils veulent donner des noms. Nous n'avons empêché à personne de donner une dénomination pour sa localité. Mais nous disons que dans un état unitaire, nous appelons nos régions, première région, de l'ouest à l'est, on les a appelées première région, deuxième région, troisième région, etc. De l'ouest à l'est. C'est comme ça que nous avons défini nos régions. D'abord, l'entité, on va de la République, de l'État malien, de la République du Mali, aux régions. On ne peut pas prendre une spécificité pour les trois régions du Nord, dire qu'il faut créer une entité pour ces trois régions qui ne peut pas être pour les autres régions. D'accord. Nous sommes dans un État républicain, unitaire, donc tel statut, c'est le même statut qui s'applique au niveau de l'ensemble. Je voudrais dire tout simplement que la mauvaise gouvernance dont on a parlé, on reconnaît qu'il y avait une mauvaise gouvernance. Même la décentralisation, on reconnaît que la décentralisation n'a pas été appliquée comme ça se doit. C'est la raison pour laquelle nous avons dit on va vers une décentralisation très poussée avec ce qu'on appelait le système de régionalisation qui donne pratiquement tous les pouvoirs, si ce n'est pas les pouvoirs régaliens, on les donne aux collectivités.
D'accord.
Pour pouvoir gérer le territoire.
Dernier sous-thème, les activités culturelles et touristiques. Le tourisme est une activité qui rapporte beaucoup dans les régions et qui permet d'écouler les produits culturels. Et nous avons une question sur cet aspect, Moussa Camara.
Oui, un autre citoyen s'interroge là-dessus. Il voudrait savoir un peu sur l'activité culturelle au nord.
Je me nomme Alousseini Abbatouré. Comment relancer les activités culturelles et touristiques dans le Nord?
Alors, Sbeti, ça fait un peu longtemps que vous n'avez pas parlé.
Je n'ai pas parlé, mais cette question, j'aurais dû rebondir sur la première, c'est-à-dire la question de l'Azawad. Mais comme le temps ne permet pas, en deux mots, j'ai envie de dire à mon frère Ousmane qu'au Mali, il n'y a pas de question d'Azawad, n'est-ce pas? La question des Azawad n'est pas un problème du Mali. C'est un problème de lui et de quelques-uns de ses camarades. Sinon, nous qui sommes là et la majorité des populations du nord de ce pays-là ne se reconnaissent pas dans cette appellation-là. Et pour nous, ce n'est pas là le problème. Nous avons un problème de développement.
D'accord.
Et nous pensons que le Mali, tout comme ses partenaires, ont la volonté de résoudre ces questions-là. Si eux qui veulent nous imposer ce terme-là, sortent un peu du sous-couvert, parce que nous sommes quand même écœurés du fait qu'ils se placent dans les perspectives des agendas des autres pour vouloir nous imposer un certain nombre de choses.
La culture,
pour revenir
au tourisme maintenant.
À la culture, évidemment, toutes les questions sont liées. À entendre mon frère qui place au devant de la chose le règlement politique de l'Azawad, on comprend qu'il n'y a pas une grande volonté de voir ce pays-là retrouver, n'est-ce pas, tout ce qui l'a caractérisé, c'est-à-dire en termes de tourisme, en termes d'activité générale. Le Nord est suffisamment affaibli et surtout qu'il vit surtout de ses produits touristiques.
Oui.
Mais si ça continue comme ça, si des gens continuent de se coucher dans les hôtels quelque part dans les périphéries du Mali pour continuer à rêver de l'Azawad, je crois qu'on en aura pour longtemps.
D'accord.
Et ça ne va pas faciliter le développement des populations qui sont réfugiées de part et d'autre.
Alors, Monsieur Maïga, est-ce que l'État a songé à relancer ce secteur du tourisme?
Oui, l'État a même une politique touristique qui est déjà en vigueur. Seulement pour les régions du Nord aujourd'hui, le tourisme, on ne peut pas, sans sécurité, comme je l'ai dit, sans paix, pas de développement. Quel est le touriste, surtout les touristes occidentaux, qui peuvent s'aventurer pour aller au nord, pour être enlevé? Non. Je pense que faisons en sorte que nous puissions retrouver la paix, la sécurité au niveau des régions du nord, et le tourisme sera développé comme ça se fait au niveau des autres régions du Mali.
D'accord. Monsieur Mohamed Ousmane, qu'est-ce qu'il faut pour relancer le secteur du tourisme au nord du Mali?
Vous savez, le secteur du tourisme, c'est un secteur de développement. Tu parles de tourisme, pas de développement. Tout ça ne serait possible sans une sécurité. Et aucune sécurité ne serait possible sans une véritable réforme du secteur de sécurité. Et il n'y aura pas de secteur de sécurité réformé s'il n'y a pas un accord avec le mouvement de l'Azawad, entre le gouvernement et le mouvement de l'Azawad, sur ce qui va devenir cette sécurité.
Tous les groupes armés, non?
Tous les groupes armés de l'Azawad. C'est ce que je vous dis. Je vous dis aujourd'hui, le tourisme aussi, c'est une question de développement. Et le développement est lié à la sécurité. La sécurité est liée à un très bon accord. Et l'accord, ça doit être entre le gouvernement du Mali et le mouvement de l'Azawad. Donc cela est très important. On ne peut pas occulter nos réalités, quelles que soient les concessions. La volonté qu'on a de faire avancer les choses, il faut qu'on ouvre les yeux sur notre réalité.
D'accord.
C'est un tiers du pays qui s'est exprimé, qui a sauté en 3 jours. Il faut sérieusement poser des questions. Quand je vois des gens qui aujourd'hui disent « touche pas à ma constitution, on révise pas la constitution », mais c'est rire. Mais la constitution, ça n'a pas sauvé les Mali, et puis la constitution, ça ne se mange pas. S'il faut sauver les pays, il faut toucher à la constitution, il faut la toucher, ma chère sœur, et je l'ai dit aussi à mon frère à cadeau. Aujourd'hui, on doit mettre tous les sacrifices nécessaires pour garder ce Mali-là uni. Et à propos de l'unité, unité, pays et l'unité, dont mon frère parle, l'unité, là, ça s'est construit.
D'accord, Monsieur Mohamed Ousmane, nous souhaitons vivement un pré-accord à Alger. Nous sommes donc au terme de ce débat sur les pourparlers d'Alger avec comme sujet justice et réconciliation, défense et sécurité et le développement économique et culturel. Ont répondu à nos questions Monsieur Speti Agado de la plateforme, Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation, Mohamed Ousmane Al-Mouemedoun de la CPA depuis Ouagadougou. Moi, je suis Sira Bachili, j'étais avec Moussa Camara pour ce débat. Ousmane Diadje Touré et Moribou Mariko l'ont réalisé. Noum Djiré et Gagny Kanté ont assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.